Oh, pas Monsieur Pizza!
Manger politique, c'est l'émission animée par la Caisse alimentaire commune de Montpellier.
Putain, j'ai becqueté tellement de membres de ta famille!
Pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire.
Et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat.
Le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel.
Des mangeurs, des mangeuses, des chercheurs, des chercheuses, des paysans et des paysannes, et des militants et militantes.
Comment as-tu fêté ça?
J'en mange plus encore.
On leur donne la parole pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kylian et vous écoutez le premier épisode de Manger politique sur Divergence FM. Manger politique, c'est l'émission animée par la Caisse alimentaire commune de Montpellier, dans laquelle on va donner la parole à des mangeurs, des mangeuses, des chercheurs, des chercheuses, des paysans et des paysannes, et des militants et militantes. On leur donne la parole pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire. Alors dit comme ça, ça fait beaucoup, et c'est pas pour rien qu'on a décidé d'y consacrer une émission entière. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. En gros, dans cette émission, on va parler de l'alimentation comme d'un sujet politique. On va découvrir ensemble qu'elle est au croisement de plein d'enjeux. Non seulement de santé, c'est sûrement ceux qui viennent en tête en premier, mais aussi environnementaux, sociaux, culturels et économiques. Pour explorer tout ça, on va devoir parler de notre système alimentaire. Pour vous présenter ce qu'est le système alimentaire et vous expliquer en quoi, aujourd'hui, on considère qu'il est défaillant, je donne la parole à Nicolas Bricasse.
Ce qu'on entend par système alimentaire, ce sont d'une part l'ensemble des acteurs économiques qui produisent, transforment, transportent, commercialisent, distribuent la nourriture jusqu'aux citoyens. Ce sont également les restaurateurs et tous les acteurs qui vont gérer les déchets. Donc c'est tous ceux qui utilisent la matière alimentaire depuis la production jusqu'à ces déchets. Et d'autre part, ce sont tous les acteurs publics et privés, associatifs, qui encadrent ces activités économiques, qui fournissent des intrants, les producteurs de semences, les producteurs d'engrais, les producteurs de produits phytosanitaires, de machinisme agricole, de machinisme dans l'industrie agroalimentaire, etc. Tous les acteurs qui vont encadrer les activités de production. Alors, ça commence par qui fournissent de l'argent pour investir. En France, c'est le Crédit Agricole, qui assure les acteurs contre les risques, notamment les aléas climatiques. C'est toute l'assurance agricole. Ce sont toutes les structures du conseil, les structures de la formation, les structures de l'information. On a comme ça un très grand nombre d'acteurs économiques, mais pas seulement, mais aussi publics et privés, qui ont été mis en place, par exemple, dans les pays industrialisés, en France, qui ont été mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour faire advenir un nouveau modèle de production, de transformation et de consommation, qu'on appelle le modèle industriel. Le modèle industriel, c'est celui qui est allé chercher dans des ressources non renouvelables les moyens d'augmenter la productivité du travail et de la terre. Autrefois, on fertilisait les champs avec les animaux qui pâturaient dans des zones non agricoles, dans des zones de pâturage, et puis qui venaient déposer leurs excréments sur les zones de culture. On utilisait les arbres qui pompaient, qui piochaient les nutriments indispensables aux plantes, l'azote, le phosphore, le potassium, dans les profondeurs, les faisaient remonter sous forme de feuilles qui se déposent sur les sols. On utilisait les légumineuses qui captent l'azote de l'air pour fertiliser les plantes et qui laissent cet azote dans le sol. Donc on utilisait un système qui fonctionnait exclusivement à l'énergie solaire, avec des animaux, avec des arbres, avec des légumineuses. Et puis on produisait une biomasse qui ne servait pas qu'à se nourrir, mais qui servait également à fournir de la force de travail, à nous chauffer. Donc ça fournissait de l'énergie, ça fournissait des matériaux, et puis comme je l'ai dit, ça fournissait des fertilisants. Et en fait, la révolution industrielle et l'industrialisation de l'agriculture, c'est finalement le fait qu'on va se mettre à utiliser d'une part des ressources fossiles non renouvelables d'énergie. On va d'abord aller chercher du charbon, puis du pétrole et du gaz, aujourd'hui de l'uranium et maintenant des terres rares pour entretenir une production dite renouvelable d'énergie. Et on a également vu l'arrivée de la chimie, de la biotechnologie, de la génétique pour améliorer les plantes, pour capter l'azote de l'air et le transformer en poudre riche en azote, qu'on appelle l'engrais azoté chimique, hein, mais qui utilise beaucoup de gaz pour faire ça. Donc on passe d'un système dans lequel on va massivement utiliser des ressources non renouvelables, qui va massivement produire, hein, c'est vraiment une production de masse spécialisée, qui va utiliser les ressources de la chimie, de la biotechnologie et de la génétique, et qui va permettre du coup une extraordinaire augmentation d'une part de la productivité de la terre, c'est-à-dire les rendements. On produit sur la même surface beaucoup plus. Et puis une productivité du travail. Un agriculteur qui pouvait nourrir tout juste sa famille et dans les meilleures conditions produire un peu d'excédent, aujourd'hui peut nourrir des dizaines de personnes, ces dizaines de personnes pouvant aller travailler dans d'autres activités que l'agriculture. Donc c'est cette industrialisation du système alimentaire qui a permis de dégager de la main-d'œuvre pour aller alimenter des usines, du fait notamment qu'il y avait une énergie pas chère, et puis, bien évidemment, de faire grossir les villes avec des activités non agricoles. Donc c'est un système, il ne faut jamais l'oublier, qui a permis le développement économique dans lequel aujourd'hui on est. Sauf qu'on a commencé à se rendre compte, déjà depuis les années 70, hein, que en fait, ce système il n'est ni généralisable à l'ensemble de la planète, où il continue pourtant de s'étendre, et que même dans les endroits où il est utilisé, comme dans les pays industrialisés, en fait, il n'est pas durable. C'est-à-dire qu'en fait, il pose des problèmes pour les générations futures qui rendront extrêmement difficile pour celles-ci de continuer de se nourrir et tout simplement de vivre. Alors, quels sont ces problèmes de durabilité ? Les premiers auxquels on pense sont bien sûr les problèmes environnementaux de deux grandes catégories. D'une part, c'est l'épuisement des ressources non renouvelables ou la surexploitation des ressources renouvelables. Et donc, c'est l'épuisement des mines de phosphate, des mines de potasse, c'est l'épuisement des ressources fossiles en énergie, c'est l'épuisement des sols, c'est la surexploitation des ressources halieutiques, du poisson, hein, qu'on prélève plus vite qu'il n'est capable de se reproduire. Et on peut le mettre dans cette catégorie, c'est aussi l'effondrement dramatique de la biodiversité, la sixième extension de masse du vivant sur la planète. Ça, c'est la première catégorie de problèmes environnementaux. Et la seconde, on peut l'appeler, c'est la catégorie de la saturation des milieux. On pollue énormément, on pollue avec beaucoup d'azote, hein, on capte l'azote de l'air par un procédé chimique, le procédé Haber-Bosch, et cet azote, on le laisse à proximité dans le sol et dans l'air à basse altitude, et il génère des pollutions épouvantables. On utilise massivement de l'engrais qui pollue également, quand on les utilise trop abusivement, qui va polluer les nappes phréatiques, qui va polluer les rivières, qui va polluer les bords de mer, et c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire l'envahissement des milieux aquatiques par les algues. On pollue avec des résidus chimiques, résidus de pesticides, résidus médicamenteux, d'antibiotiques, etc. Et qui vont finir par aussi détruire le milieu et détruire le vivant, détruire la vie des sols. On a supprimé les haies, on a du coup fait effondrer la biodiversité. Donc on a d'un côté, voilà, cette surexploitation des ressources et de l'autre, cette saturation des milieux qui aujourd'hui montre qu'on risque de ne plus pouvoir continuer de produire à un même niveau compte tenu de la dégradation de l'environnement. Et puis plus simplement, hein, on risque en fait d'empêcher d'arriver à vivre à peu près normalement sur cette planète, en particulier du fait du changement climatique. Le système alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble de ces acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, est responsable d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et notamment du fait qu'on déforeste massivement pour continuer à étendre la production, et en particulier la production animale, pour pouvoir satisfaire, ou en tout cas fournir une protéine animale à très faible coût. Ça, c'est les premiers grands problèmes de durabilité, les problèmes environnementaux. Le deuxième grand problème, c'est le problème sanitaire. Et lui aussi se compose en deux catégories. Les problèmes nutritionnels. On a tout fait pour essayer de produire de la calorie le moins cher possible. Et on a aujourd'hui une surabondance de consommation calorique. On consomme trop par rapport notamment à notre activité physique. Et on a une explosion du surpoids et de l'obésité. L'obésité n'est pas une maladie, mais c'est un facteur de risque. Un facteur de risque pour le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires. La baisse de notre consommation de fibres, elle se traduit aussi par l'augmentation du nombre de cancers colorectaux. Et puis un certain nombre d'autres maladies qui n'ont pas pour seule responsabilité les changements alimentaires, mais dans lesquels les changements alimentaires sont des facteurs importants. Alors ça, c'est du fait qu'on mange trop gras, trop sucré, trop salé. Et de l'autre côté, un autre type de problème qui ne relève pas véritablement de la nutrition, mais qui est le fait qu'on s'intoxique progressivement aux résidus chimiques. Résidus de pesticides, bien sûr, mais aussi plastiques, microplastiques, qu'on absorbe sans s'en rendre compte, mais qui ont des effets, on commence à vraiment le voir de plus en plus, des effets sur notre santé. Donc à un coût sanitaire très élevé et croissant aujourd'hui. Troisième type de problème de durabilité sont les problèmes, on pourrait dire, socio-économiques. En fait, on est à la fois dans un monde qui s'enrichit, mais dans lequel on a une part croissante de la population qui décroche par rapport au développement économique, qui est dans une situation de pauvreté et qui fait qu'elle a énormément de difficultés à se nourrir correctement. On est dans un paradoxe dans lequel les agriculteurs, qui sont ceux qui nourrissent la planète, sont en même temps les agents économiques les plus mal rémunérés du système alimentaire. Finalement, ce qu'on voit, c'est que la richesse s'accumule en aval de la filière, chez les transformateurs, chez les distributeurs, et aujourd'hui et demain dans les industries du numérique qui prennent de plus en plus d'importance dans notre système alimentaire. Donc on a une très grande inéquité dans la répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Et donc ce paradoxe terrible du fait que ceux qui nous fournissent les matières premières agricoles sont en fait ceux qui souffrent le plus de l'insécurité alimentaire. Alors pendant des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale où on a commencé à le mesurer, on a vu diminuer très lentement, mais diminuer quand même, le nombre de gens qui souffrent de la faim dans le monde. Mais on a depuis 6-7 ans un renversement historique, c'est que ce nombre de personnes augmente à nouveau sur la planète, augmente en particulier du fait des crises qui se multiplient, et en particulier des crises climatiques d'une part, et qui génèrent en fait des migrations massives de gens qui ne peuvent plus rester sur leur terre parce qu'il y a une sécheresse. En Éthiopie, il y a eu un an sans pluie. Les paysans et les agriculteurs dans les milieux ruraux ne peuvent plus vivre dans ces zones-là et donc migrent vers les villes, migrent vers d'autres pays et du coup viennent poser effectivement des problèmes de capacité à les nourrir puisqu'ils ne produisent plus eux-mêmes leur nourriture. Et le deuxième type de crise sont les crises liées aux conflits et notamment souvent des conflits qui sont liés à la compétition pour l'accaparement des dernières ressources fossiles de la planète. Et donc on voit aujourd'hui une situation un peu paradoxale, on pourrait imaginer, c'est que la planète n'a jamais produit autant de nourriture. L'accroissement de la production alimentaire continue d'être plus rapide que l'accroissement de la population, c'est-à-dire que la production alimentaire par habitant continue d'augmenter. On a largement dépassé maintenant à l'échelle mondiale un seuil de 2500 kilocalories par personne et par jour, qui permet de se dire que si en moyenne on a ça dans un pays, ce pays ne manque pas de nourriture. Donc on est aujourd'hui, on frise les 3000 kilocalories par personne et par jour à l'échelle de la planète. Et n'empêche qu'on a toujours des gens qui continuent d'être de plus en plus nombreux à ne pas arriver à se nourrir correctement et être en sous-alimentation. Et donc c'est ce paradoxe d'une planète surproductrice d'aliments et en même temps qui voit augmenter le nombre de gens qui ont faim. Alors, le nombre de gens qui ont faim, il augmente aussi en France. Hein. On estime aujourd'hui entre 8 et 10 millions le nombre de gens qui sont dans une situation de pauvreté, pauvreté économique, pauvreté en temps et pauvreté en espace, et qui rend très difficile pour eux d'arriver à se nourrir correctement, avec derrière l'apparition de tas de pathologies qui sont liées à cette difficulté à pouvoir se nourrir correctement. Autre problème socio-économique, c'est la surexploitation et la précarité du travail dans le système alimentaire. Si vous pensez à tous les travailleurs agricoles, les transporteurs routiers, les agents qui travaillent dans les abattoirs, dans les industries agroalimentaires, si vous pensez aux gens qui font la cuisine dans les restaurants, aux livreurs de pizza ou de sushi dans les villes, et à tous les éboueurs qui utilisent et ramassent et stockent les déchets provoqués par ces chaînes alimentaires, en fait, ce sont des métiers très très peu qualifiés, très peu rémunérés et travaillant dans des conditions difficiles. La crise de la Covid, elle l'a bien révélé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont tous ces acteurs qui ont continué de travailler pour nous nourrir, alors qu'ils sont eux-mêmes ceux qui étaient les plus fragilisés et les plus soumis à une précarité de leur travail, que ce soit en rémunération, en temps, en pénibilité. Et c'est ça qui permet d'avoir un système où notre alimentation n'est pas chère. Et puis enfin, on a un problème de gouvernance, c'est que le pouvoir sur ce système alimentaire, il est accaparé par une poignée d'acteurs, quelques acteurs très puissants qui ont fait leur puissance et leur richesse sur ce modèle industriel, et qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à devoir penser à changer de système alimentaire, à repenser notre relation, d'une part, à l'alimentation, à lui redonner peut-être plus de valeur, mais pas uniquement de la valeur économique, mais aussi de la valeur symbolique, à redistribuer différemment les richesses, à changer nos modes de consommation pour être moins impactants sur l'environnement. C'est en particulier la nécessaire diminution de la surconsommation de viande et de produits animaux. Et c'est aujourd'hui un grand défi d'arriver à essayer de construire un système alimentaire.
Merci beaucoup Nicolas. Vous venez d'entendre donc Nicolas Bricasse, socio-économiste, chercheur au CIRAD et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Là, Nicolas vient de nous expliquer que notre système alimentaire, il est défaillant. Que sur plein de plans, aujourd'hui, il est coûteux, humainement, en termes de dignité, du point de vue environnemental, et à de multiples autres échelles. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le transformer, ce système alimentaire ? Eh bien, à Montpellier, il y a une initiative qui s'appelle la Caisse alimentaire commune, et qui tente de s'attaquer à ces grands enjeux. Et comment il le fait ? Il le fait par la démocratie alimentaire, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est les citoyens, les mangeurs, les mangeuses qui doivent se saisir de ces enjeux et ensemble transformer le système alimentaire. Pour vous parler de tout ça, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Michael et Elsa, qui sont deux membres du comité citoyen de l'alimentation. Alors tout d'abord, Michael ou Elsa, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la Caisse alimentaire commune et nous expliquer ce que c'est ?
Oui, bonjour. Donc, la Caisse alimentaire commune, c'est un budget commun issu de fonds publics, fonds privés et de cotisations des expérimentateurs. En ce moment, 400 personnes contribuent chaque mois par une cotisation qui est autodéterminée et qui va de 1 à 170 euros. Et en retour, ils reçoivent 100 monas équivalent à 100 euros.
Comment ça marche concrètement ? En fait, chaque expérimentateur, expérimentatrice perçoit donc 100 monas, qui est l'équivalent de 100 euros par mois, et dans une cinquantaine de lieux qu'on a conventionnés, c'est-à-dire que c'est le comité citoyen qui a décidé de conventionner certains lieux de vente, on peut aller acheter des produits alimentaires avec ces monas. Donc du côté du commerçant, c'est assez simple d'utilisation, c'est une monnaie numérique. Et quand je vais par exemple chez le boucher du marché de mon quartier, je vais acheter un kilo de saucisses au même prix que tous les autres clients. Donc je ne suis pas stigmatisée précaire et je suis juste stigmatisée expérimentatrice de la mona. Et le boucher ne sait pas combien ça me coûte au final d'acheter son kilo de saucisses ou son kilo de rôti de porc.
Ce qu'il faut dire aussi, et qui me paraît important, c'est que l'expérimentation que vous présentez aujourd'hui, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi, je travaille pour cette expérimentation, elle est inspirée d'un concept, celui de sécurité sociale de l'alimentation, qui est défendu nationalement par un collectif qu'on appelle le collectif SSA, pour Sécurité Sociale de l'Alimentation, et qui se propose, qui formule une proposition politique en fait, il se propose d'ajouter à la protection sociale qu'on a aujourd'hui, avec une branche santé, une branche retraite, etc., une nouvelle branche, qui serait la branche alimentation, pour défendre le droit à l'alimentation pour toutes et tous, et être certaine que chaque personne ait de quoi manger dignement, une alimentation choisie et de qualité, tous les mois, en sanctuarisant un budget d'à peu près 150 euros par personne. C'est la proposition actuelle. Voilà. Donc cette expérimentation à Montpellier, elle a démarré il y a environ 2 ans, et elle est inspirée de cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler, Elsa, Mickaël, de votre expérience au comité citoyen? En tout cas, pourquoi vous avez choisi de le rejoindre?
Alors, j'ai choisi de rejoindre le comité. J'en avais entendu parler par le Secours Populaire. J'étais bénéficiaire du Secours Populaire qui donne une alimentation qui n'est pas de qualité, mais qui était essentielle à ma vie à ce moment-là. Et j'ai entendu parler de ce projet où ce seraient des citoyens qui décideraient pour d'autres citoyens. Et je trouvais le concept absolument génial et tellement innovant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre ce comité.
Et moi, alors, je n'ai pas le même âge que Mickaël, mais un petit peu le même parcours. Je travaille depuis presque 20 ans à la croisée des questions de santé et de social. Et j'ai toujours expliqué aux personnes, j'ai toujours dit aux personnes que j'accompagnais qu'il ne fallait pas qu'elles aient honte d'aller demander de l'aide auprès des organismes qui organisent l'aide alimentaire en France. Évidemment que pour l'instant, on ne peut pas s'en passer, et là-dessus, on va être très clair. Bien sûr que les Restos du Cœur, il faut que ça continue. Bien sûr que le Secours catholique, les distributions qui existent, elles doivent perdurer pour l'instant, parce que notre système à nous, il n'est pas encore tout à fait au point et l'échelle est encore trop petite. Malgré tout, j'ai toujours expliqué ça aux gens, qu'il ne fallait pas avoir honte de demander de l'aide, parce qu'on a un système de solidarité en France qui est important, et heureusement, et on y est attaché. Sauf que, il y a 3 ans, j'ai connu un gros dérapage dans ma vie et que j'ai eu, moi, affaire à l'aide alimentaire telle qu'elle existe aujourd'hui, et que je me suis rendu compte que c'est pas si simple de pas avoir honte d'aller demander de l'aide, qu'il faut sortir 1 milliard de papiers pour justifier qu'on est réellement dans la précarité alimentaire, que on fait la queue pendant des heures, que les gens presque se tapent dessus pour un bout de jambon sous cellophane qui est pas bon ni pour notre santé, ni au goût, ni rien du tout, et que ça participe à un gros système économique qui ne nous convient plus aussi, mais ça on le développera certainement dans une autre émission. Et du coup, je me suis rendu compte que mon discours, il était pas très cohérent, en fait, avec les personnes que j'accompagnais. Une fois que le comité citoyen est arrivé dans ma vie, tout ça a pris corps, en fait, et depuis 2 ans maintenant, on est en train de se construire une vraie pensée collective au comité, qui commence à être solide. Je crois que c'est de la dentelle, ce qu'on est en train de fabriquer là. On a bien envie de le partager avec un maximum de gens et de témoigner de tout ce qui se construit aujourd'hui. Et pourquoi j'y reste? Alors, il faut savoir qu'on est presque 60 dans le comité et qu'on est tous très assidus. Donc, c'est un engagement qui est important. Encore une fois, c'est un samedi matin par mois maintenant, mais c'était un peu plus l'année dernière. Et c'est un gros engagement, mais c'est pas lourd du tout, parce que on arrive le matin à 9h, on prend le temps de se servir un petit café, on est accompagné par une équipe d'animation qui est absolument formidable et qui rend la pensée profonde et possible. En fait, on arrive à débattre et à s'accrocher sur des sujets éminemment complexes. Et à se mettre d'accord, en fait, parce qu'on prend le temps et parce que tout est rendu confortable par cette équipe d'animation qu'on présentera, pareil, dans un autre volet, certainement. Et moi, je m'accroche à ce comité aussi parce que je crois que pour une fois, on a le droit de rêver un monde un peu moins injuste, voire un monde un peu plus juste, et qu'on va y arriver, et qu'un jour, chaque personne qui circule sur le territoire français aura dans sa poche l'équivalent d'une carte vitale qui sera allouée à de l'alimentaire et pourra manger autre chose que de l'agro-industriel qui nous empoisonne tous.
Merci beaucoup, Elsa. Michael, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, ce que je voulais ajouter surtout, c'est que à travers le comité citoyen, j'ai rencontré différentes personnes de différents milieux socio-économiques. Et pourtant, chaque parole est entendue, chaque parole est valorisée, quel que soit notre milieu. Chaque participant a son mot à dire sur les décisions prises. C'est ce qui permet de faire vivre cette démocratie alimentaire.
Merci beaucoup, Michael. Alors, avec les témoignages, les retours d'expérience d'Elsa et de Michael, avec la présentation de Nicolas, normalement, avec cette émission, vous avez compris qu'aujourd'hui, on a un système alimentaire, qui est un système agro-industriel, qui est destructeur à la fois pour les humains, leur dignité, pour l'environnement, qui cause de multiples coûts à la société. D'un côté de la chaîne, on a des agriculteurs et des agricultrices qui peinent à vivre de leur métier, et de l'autre, on a des gens qui, malgré tout, n'arrivent pas à manger dignement l'alimentation produite par ces producteurs et productrices. Alors pour changer ça, puisque l'alimentation est un sujet politique, il faut qu'on le prenne en main. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Manger Politique, pour le prochain épisode de Manger Politique, et pour qu'on détaille ensemble pourquoi est-ce que c'est nécessaire de s'attaquer à ce système et comment est-ce qu'on va le transformer.
Oh non, pas Monsieur Pizza!
Manger Politique, c'est l'émission animée par la Caisse Alimentaire Commune de Montpellier.
Putain, j'ai piqueté tellement de membres de ta famille!
Pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire.
Et je sens quelque chose qui n'est pas du chocolat.
Le mets le plus médiocre a sans doute plus de valeur que notre critique qui le dénonce comme tel.
Des mangeurs, des mangeuses, des chercheurs, des chercheuses, des paysans et des paysannes, et des militants et militantes.
Comment as-tu fêté ça?
J'en mange plus encore.
On leur donne la parole pour nous parler d'alimentation durable, de droit à l'alimentation et de démocratie alimentaire.